Bonjour à tous et à toutes, nous sommes dans le studio de Micro Rebelle dans la rubrique L'actualité vue par les jeunes. Pour rappel, nous sommes diffusés chaque dernier mardi du mois sur Radio Plus à Douvrin 104.3. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathieu, Luc et Océane. Nous allons débattre sur le sujet suivant, le système pénal en France. Donc on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Alors moi aujourd'hui je vais parler des sanctions pénales.
Ensuite moi je vais parler plutôt des erreurs judiciaires.
Moi je vais parler de Michel Foucault qui a écrit un bouquin qui s'appelle Surveiller et punir, paru en 1975.
Et je conclurai sur quelles alternatives possibles.
Alors les sanctions pénales, déjà c'est quoi ? Alors la sanction pénale c'est une sanction mise en place contre une personne qui a commis une infraction. Donc pour savoir quelles sanctions on peut avoir, il faut tout simplement déjà déterminer le niveau d'infraction. Donc le niveau d'infraction, il y en a trois. Il y a tout d'abord la contravention, qui est jugée par le tribunal de police. Donc dans cette contravention, il y a cinq niveaux, qui est la diffamation, l'atteinte à l'intégrité physique. Donc, par exemple, une entreprise qui manque de sécurité, menace de tapage nocturne, diffamation non publique et ensuite violence. Donc, cette contravention est sanctionnée par une amende allant de 38 euros à 3000 euros, selon bien sûr les niveaux. Et parfois, on peut aussi, en plus de ça, avoir une peine complémentaire, par exemple le retrait de permis. Ensuite, le deuxième niveau d'infraction, c'est le délit. Donc le délit est jugé par le tribunal correctionnel. Un délit, c'est par exemple l'harcèlement moral, fraude, vol, violence grave, etc. Alors les délits sont sanctionnés par l'emprisonnement. On peut avoir une peine grand maximum de 10 ans de prison. On peut aussi avoir en plus une amende. Donc bien sûr, l'amende va au-dessus de 3000 euros. Ensuite, on peut aussi encore en plus avoir des peines complémentaires qui, là, ce sera plus dans le, par exemple, des travaux d'intérêt général. Et le dernier niveau qui est le plus grand, c'est bien sûr les crimes, qui est jugé par la cour d'assises. Donc la cour d'assises est constituée de trois magistrats et d'un jury populaire. Donc, pareil, dans ces crimes, il y a trois niveaux. C'est contre l'État, enfin c'est pas plutôt des niveaux, c'est plutôt des secteurs, on va dire. Donc il y a le contre l'État, le crime contre l'État, le crime contre des personnes et le crime contre des biens. Donc ces crimes sont sanctionnés par entre 15 ans de prison et la perpétuité, bien sûr. Et il faut savoir qu'en fait, on choisit en quelque sorte la sanction en fonction des infractions, c'est-à-dire... Par exemple, une personne a tué une personne et a fait un vol. Et bah dans ces cas-là, ça sera l'infraction la plus grave. Donc ici, ça sera donc le crime qui sera pris en fait pour. En gros, la personne elle ira dans la catégorie crime au lieu de la catégorie délit. Et en gros, c'est comme ça en gros qu'elle aura une plus grande sanction quoi. Je sais pas si j'étais claire.
Ouais, c'est à peu près clair.
Donc en fait, ma question est d'après vous, est-ce qu'on devrait supprimer le niveau de contravention parce que finalement, il n'y a pas d'emprisonnement. Donc est-ce qu'on devrait plutôt la rattacher au délit pour aussi avoir en plus un emprisonnement, par exemple pour les violences, ou on devrait carrément laisser comme ça quoi.
Vas-y.
Je pense que c'est bien aussi d'avoir plusieurs niveaux, comme tu disais, enfin plusieurs secteurs, et plusieurs degrés en fait de contravention par exemple. Et je pense qu'on devrait, enfin, pas forcément changer ça parce que, enfin, je trouve qu'on met déjà assez de gens en prison pour en plus supprimer des catégories et rendre ça encore plus flou, on va dire, parce que, enfin, il y a toujours des cas exceptionnels, des cas qui sont à part, on va dire, et chaque cas est différent, en fait. Et je pense que si on commence à dire que tel cas ressemble à tel cas, alors qu'il y a quand même une petite nuance entre les deux, ou une grande nuance, parfois, ça serait un peu mettre tout le monde dans la même case, et je pense que... Après, le système judiciaire, en soi, il peut vraiment être amélioré, je pense qu'on pourrait mettre plus de nuances, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, comme tu nous l'as dit. Ouais. C'est vrai que j'ai eu aussi un peu mal à intégrer ça. Et je pense que bon, on devrait pas forcément, comme tu dis, coller deux secteurs ou bien les associer. Enfin, je pense qu'on devrait peut-être rajouter des nuances ou bien, c'est plus mon avis après.
En fait, la question c'est quel est le rôle de la contravention ou de l'amende. Et est-ce que c'est fait pour, empêcher que les gens commettent des infractions ou est-ce que c'est fait pour soutirer de l'argent aux gens? Et de plus en plus, je pense que c'est même un sentiment généralisé dans la population. On a l'impression que les contraventions sont faites pour générer du bénéfice pour l'État, quoi. C'est le cas avec les fameuses voitures qui vont mettre des contraventions directement sur la route et qui sont une manne financière énorme. Ou avec l'abaissement de 10 km/h sur les routes, tout un tas de petites infractions. Enfin, il y a de plus en plus d'infractions, je veux dire, on fait un pet de travers et on se tape une amende, quoi, maintenant. Donc, la question est là, et quel est le rôle, en fait, de la contravention?
Puis comme tu le disais, Luc, justement, j'allais parler des voitures et de l'abaissement de la vitesse de 10 km/h. Enfin, il me semble qu'on l'avait déjà fait aux années 2000, parce qu'avant, on roulait à 60 km/h, il me semble. C'est mon père qui m'a expliqué ça, donc, et c'est passé à 50. Et en fait, là, en ce moment, à la radio, je sais pas si vous avez remarqué, mais on entend beaucoup dans les, plus Energy, Skyrock, ce genre de radio, on entend beaucoup la petite pub qui passe du gouvernement et qui dit « Oh là là, mon frère est décédé dans un accident de voiture, il faut abaisser la limite à 80 ». Et finalement, il y a un test qui a été fait, justement... Et on avait prouvé, dans une ville, ça avait été fait, on avait abaissé de 90 à 80 km/h et on avait remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de changement au niveau de la mortalité et tout. Et je pense que, ouais, on cherche aussi à faire beaucoup de bénéfices sur le dos des gens parce que, selon moi, les gens ne vont déjà pas forcément respecter cette limite. Déjà, les gens ont du mal à respecter 110 et 90, c'est déjà trop dur. Alors là, 80, je pense que l'État va bien se faire du blé sur nous. Hein. Donc bon, après.
Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Non, Océane. Je pense que d'une manière générale, ça va être un peu la question de fond de notre débat, c'est-à-dire est-ce que les peines, qu'elles soient des peines de prison, que ce soit des peines financières, ont réellement, on va dire, les objectifs qu'elles nous présentent. C'est-à-dire, c'est valable aussi pour la prison. Est-ce que la prison sert réellement à réprimer des délits ou à faire des délinquants? Est-ce qu'une amende sert réellement à faire que les gens ne commettent plus d'infractions ou à générer de l'argent? Bon, je pense qu'on va être vraiment dans cette question-là.
Bah, j'ai déjà la réponse pour le système carcéral. Et on voit que la prison, en fait, ça marche pas. Parce qu'on a 63% de taux de récidive après être emprisonné. Ça montre quand même que... ça marche pas, que la prison c'est peut-être plus une fabrique à délinquants qu'autre chose, quoi. Qu'à grand criminel même.
Ouais, et puis on verra qu'effectivement il y a des alternatives qui fonctionnent beaucoup mieux, ou au moins en termes statistiques. Ce sera le sujet de ton intervention, donc on n'entame pas trop ce que tu vas nous dire après. Bon, puisque personne n'a rien à dire sur ce sujet, on va faire tout de suite une petite pause musicale. Ça s'appelle North Groove Suburban Symphony et le titre c'est Happy Step. Thank you.
Donc c'est moi qui reprends maintenant, et donc je vais parler plutôt des erreurs judiciaires. Donc aujourd'hui, la justice française commet toujours des erreurs, notamment dans son système pénal. Donc c'est ainsi que s'est déroulée l'affaire Outreau dans les années 2000. Donc pour rappel, l'affaire Outreau est celle des enfants du couple Delay, Thierry et Myriam, qui sont eux accusés d'avoir violé leurs enfants et de les avoir filmés avec d'autres enfants du voisinage. Donc jusque-là, l'affaire est nette et une enquête est lancée. Mais voilà que les enfants dénoncent un grand nombre d'adultes impliqués dans l'affaire. Donc 18 d'entre eux, de ces adultes, sont incarcérés provisoirement. Le verdict, voyez-vous, n'a que peu d'importance dans ce que j'aimerais mettre en lumière. Donc la mère des enfants avoue un peu plus tard qu'elle a menti et innocente 13 adultes d'entre eux. Donc 6 accusés clamant pourtant leur innocence ont été condamnés sans plus d'investigation. Ils se sont battus pour se faire entendre aux yeux de la loi, aux yeux de la justice, pour finalement se faire acquitter en 2005. Mais ils ont tout de même passé un petit temps en prison. Donc la limite entre l'innocence et la peine de prison est plutôt fine en France. Donc dans certains cas, un violeur n'a qu'au terme de son procès 3 ans de prison, tandis qu'un dealer en écope de 5. Donc la justice condamne de plus en plus de gens, notamment des innocents, ou des cas mineurs qui pourraient se soulever par une simple amende, alors que les prisons, elles, deviennent de plus en plus étroites. Donc c'est à ce moment-là que tout se complique. En plus de commettre des erreurs, qui sont humaines malgré tout, rappelons-le, il n'y a pas de possibilité pour les innocents de faire appel rapidement. Donc, en effet, en 2001, la France a été condamnée 18 fois à la Cour européenne des droits de l'homme pour ses procédures judiciaires trop lentes, ne donnant pas un délai raisonnable au citoyen qui a pourtant le droit de récuser le verdict de son affaire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, j'en pense que Outreau, c'est une affaire vachement compliquée. Et je me demande même si, à l'heure actuelle, la lumière a été faite sur ce qui s'est passé, non ? Je ne sais pas où on en est du tout. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions là-dessus ?
En fait, j'ai regardé l'idée de cette chronique, mais venue en regardant justement un documentaire sur l'affaire Outreau que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le juge qui était chargé de l'affaire, donc là maintenant son nom m'échappe, mais il venait d'être mis au barreau en fait, donc ça faisait un an qu'il exerçait ses fonctions. Et en fait, on n'a pas vraiment de preuves en fait qui inculpent ces 6 ou 7 personnes qui clamaient leur innocence et qui pourtant ont été mis en prison. C'est une affaire très compliquée parce qu'il y a beaucoup d'adultes en fait qui ont été mis dedans, plus de 18 personnes, 24 ou 25 enfants ont été retirés de la garde de leur famille dans le village. En fait, c'était une grosse affaire. Et finalement, on n'en voit pas le fond, finalement, parce que la mère a avoué avoir menti. Elle dit d'ailleurs, en fait, dans son procès, que la boulangère qui a été accusée de viol sur ses enfants, finalement, elle était gentille et qu'elle n'avait jamais touché à ses enfants. Donc, on ne sait pas trop. Il y a une enquête qui a été faite sur le cas psychologique de la mère. On sait que le père, en fait, il y a des preuves, en fait, corporelles sur les enfants, comme quoi il y a bien eu viol, en fait. Mais on n'en sait pas plus. Apparemment, finalement, ceux qui ont été vraiment condamnés sont les parents, Myriam et Thierry, et le couple de voisins qui habitait juste à côté. Et en fait, il y a quand même des condamnations. On ne sait pas trop pourquoi ils sont condamnés. Il n'y a pas vraiment de raison. Et c'est une affaire, en fait, qui est toujours aussi compliquée aujourd'hui. Et on essaye, justement, de rétablir la vérité. Il y a une commission qui a été faite il n'y a pas très très longtemps pour un appel, justement, en 2005. Donc pas très longtemps, enfin quand même plus de 10 ans, qui a été faite. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont en prison pour cette affaire et qui clament leur innocence, en fait, parce qu'ils ont il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien. Et finalement, c'est que sur la parole des enfants. Et ça, c'est une question. C'est est-ce qu'on donne trop d'importance aux enfants qui sont peut-être plus facilement manipulables que les adultes ? Ça, c'est une question parce que c'est les enfants qui ont dit comme ça que la boulangère, par exemple, les a violés, les a touchés, ont participé aux orgies organisées par les parents. Finalement, on peut se demander ça, et je pense que le juge aussi a été pris en partie par rapport aux enfants, parce qu'il n'y avait que les enfants qui pouvaient dire ça. Et vu que c'était des enfants, c'était pas vraiment leurs enfants, c'était des enfants placés en famille d'accueil. Donc il y a une question aussi sur leurs véritables intentions derrière, et ça, je pense qu'on ne le saura jamais.
Et donc la question, c'est quoi ? C'est quelle est la possibilité de faire appel dans le système pénal français ?
Ouais, un peu, c'est aussi se poser la question, en fait, de... est-ce que la loi déjà condamne un peu trop parfois, alors qu'elle ne devrait pas, ce qui blinde un peu les prisons et qui fait qu'en fait, il y a des peines qui sont un peu illogiques. Enfin, je veux dire, un violeur qui prend 3 ans contre un dealer qui en prend 5. Pour moi, question de moralité, le dealer, il a fait
moins de un délit plutôt moins grave en fait que celui du violeur. Et il y a aussi la question du coup des innocents qui se retrouvent en prison et de l'appel à l'aide en fait qui est pas vraiment écouté par la justice. Il y a un cas d'ailleurs je crois que le monsieur s'appelait Robert mais je me souviens plus de son nom là tout de suite, mais ça a pris 7 ans pour qu'il soit entendu par la justice et qu'il soit innocenté. Enfin, quand même, il avait 30 ans de prison, quoi. Je veux dire, 30 ans de prison, c'est un peu comme la peine de mort pour moi. Quand t'as 50 ans, t'as un peu déjà...
C'est le cas aussi de... Comment il s'appelait ? Patrick Dils, non ? C'est pas ça ?
Oui, aussi, c'est son cas aussi. Donc après, voilà, je veux dire, quand la justice met 7 ans à se rendre compte et puis qu'ils disent comme ça à la Cour européenne des droits de l'homme, oh, « Mais oui, mais c'est pas de notre faute, l'enquête, elle était longue. » Quand même, 7 ans. 7 ans, c'est un peu exagéré, quand même.
C'est sûr.
Ouais, là, je vois qu'on parle des violeurs qui prennent moins de temps que des vendeurs de drogue. Je pense qu'aussi, il y a un sujet important, c'est aussi qu'on a en France quand même une justice de classe qui se fait quand même ressentir. Et par exemple, quand on voit des personnes qui détournent de l'argent, qui détournent énormément d'argent à cause de la fraude fiscale et qui ne sont jamais condamnées ou uniquement avec de la prison avec sursis, on voit aussi que c'est honteux. Et par exemple aussi, on voit que des policiers, par exemple, qui exerceraient mal leur travail, ça existe. Ça se passe.
Oui, des bavures, ça existe.
Il y a des bavures policières et qui sont jamais condamnées non plus, ou très peu.
Ouais, jamais. Effectivement, jamais. Bon, je sais pas, on peut prendre le cas de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, qui, je crois, est pour l'instant impliqué dans 12 affaires et qui certainement n'écopera jamais d'une peine de prison ni même d'une sanction. Bon, Jacques Chirac avait été condamné. Hein. Il a été condamné pour des retournements de fonds. Bon, peut-être que c'est un peu en train de changer, mais effectivement, c'est... Il y a un peu une question de la justice à deux vitesses. Je me posais une autre question, c'est que la justice a aussi une fonction symbolique. Moi, ça, c'est anthropologique, quoi. Le système judiciaire symbolise la vengeance. C'est-à-dire que c'est souvent ce que les gens réclament quand il y a quelque chose, un crime horrible qui est commis, viol, meurtre ou assassinat, ce genre de choses. Ce que veut la famille, c'est la condamnation de la personne. Peu importe qu'elle et si possible, une condamnation qui soit la plus lourde possible. J'entends par là que si la peine de mort existait en France, il y aurait encore beaucoup de gens pour la réclamer dans le cas d'un viol ou dans le cas d'un meurtre sur un enfant. C'est absolument certain. Et c'est pour ça qu'on peut-être que parfois on condamne assez vite des gens. C'est que la population ou les parties civiles victimes appellent à cette vengeance.
Je pense que c'est un peu le cas aussi, mais tu parlais de Jacques Chirac juste avant, et je pense qu'en fait, comme le disait Mathieu, il y a une certaine, un peu, par rapport aux classes, c'est un peu compliqué, et je pense qu'en fait, quand on a l'argent, on écope à la prison, mais quand on n'a pas l'argent, on va en prison. Et je pense que, comme tu le disais, voilà, il y a aussi la population qui veut absolument que la personne prenne un peu pour son crime, en fait, et parfois, ça va peut-être un peu trop vite, et je pense que... pour moi, la peine de mort en France n'existe pas. C'est vrai, elle a été abolie il y a longtemps. C'est plutôt aux États-Unis que ça se passe. Mais je pense que déjà, mettre 30 ans de prison, c'est un peu pour moi la peine de mort. C'est une peine de mort dissimulée. C'est un peu dire, je vous mets 30 ans de prison, mais en fait, on espère que vous allez crever pendant les 30 ans, quoi. C'est un peu ça aussi, hein, finalement. Je veux dire, du coup, c'est un peu une question qu'on se pose aussi, quoi. Parce que bon, mettre des gens en prison et on n'a pas vraiment de preuves, ou bien voilà. Il y a pareil, la légion de peine. Enfin, je veux dire, on met un violeur, voilà, il a 10 ans de peine, admettons. Et on lui dit, pour bonne conduite, vous pouvez sortir au bout de 7 ans, c'est sympa. Je veux dire, je pense aussi que la justice, elle a un pied dedans, un pied dehors. Je pense aussi, c'est ça aussi la question, c'est le fait qu'on allège les peines, puis ensuite on les durcit. On sait pas trop ce qu'on veut, finalement, dans le système judiciaire.
Moi, je voulais revenir sur le fait qu'on voit que, justement, il y avait cette ambiance de vengeance. Et on avait parlé tout à l'heure avec Aurélie, qu'on voit qu'on avait vu sur Internet, qu'on voit que maintenant, pour les violeurs, bon, c'est en cours, bien sûr, donc c'est pas sûr que ça va se passer et qu'ils vont le faire. En gros, ils voudraient les castrer, c'est ça ?
Injecter,
injecter un produit pour les violeurs. Mais en fait, le problème là aussi à dire, c'est que ça va rien changer. Je veux dire, la personne aura toujours son attribut sexuel. Je veux dire, il pourra quand même violer, c'est pas parce qu'il est castré qu'il pourra pas violer une personne, quoi.
Je pense pas, justement. Je pense que ça détruit la capacité des organes génitaux. Mais par contre, ça prend pas du tout en compte le fait que la plupart des crimes sexuels sont des attouchements, quoi. C'est fait avec les mains. Et ça prend pas du tout... je sais pas, je veux pas rentrer dans ce genre de statistiques, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans les testicules que ça se passe, mais souvent dans la tête. Donc castration chimique, je pense que ça aura effectivement pas les effets escomptés sur la diminution des crimes sexuels.
Mais de toute façon, les personnes qui proposent ça, c'est pas forcément pour avoir des effets qui proposent ça, c'est plus par populisme et pour faire plaisir aux gens qui ont envie de se venger de ce genre de crime. Et surtout, je pense que ce genre de solution, au final, ça aidera pas les gens à se réinsérer normalement dans la société.
Ouais, mais qui voudrait réinsérer des violeurs ?
Bah,
Non, mais c'est la question aussi, oui. C'est qu'en fait le.
Mais enfin, tout. Sauf problème pathologique.
C'est un monstre, quoi. C'est un monstre. C'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de.
Ah, mais là, on déshumanise quand même, alors que, enfin, au final, on est quand même tous des humains à peu près normalement constitués. Je pense que on n'est pas comme ça en étant une bête féroce et qu'on est. C'est plutôt la société qui va pervertir les gens, quand même.
Après, j'en parlais aussi tout à l'heure, le fait qu'en fait. Enfin, il y avait une affaire comme ça dans les enquêtes policières, enfin criminelles quand même, beaucoup océanes. Il y avait une enquête comme ça sur un homme, je me souviens plus trop son nom, mais enfin je me souviens pas de son nom du tout d'ailleurs, et qui a assassiné quelqu'un, qui a pris 30 ans de prison, qui est sorti, il a préféré retourner en prison en fait finalement. Et je pense qu'en fait quand on donne une peine maximale comme ça, 30 ans de prison, je pense aussi c'est d'un côté, enfin je pense pas qu'il y a la bienveillance, je dirais pas jusque là, mais je pense aussi que quand on a assassiné quelqu'un ou violé quelqu'un, pour se réinsérer dans la société, ça devient très très compliqué. Enfin, je pense que là, puis même il y a une sorte de populisme derrière, il y a des gens qui sont lynchés. Je veux dire, là, il n'y a pas longtemps, il y avait des féministes qui ont... Bon, c'est légitime. C'est un chanteur qui a agressé une femme, je ne sais plus du tout son nom, mais...
Bah, je ne me souviens pas beaucoup des noms aujourd'hui.
Non, je ne me souviens pas des noms, mais c'est parce que
Bertrand,
là, j'y
Bertrand
pense...
Bertrand Cantat et Marie Trintignant.
Voilà, c'est ça.
Voilà, j'y pense comme ça, et du coup, moi, je lis, et puis voilà, je ne retiens pas les noms, ça ne m'intéresse pas. Enfin, pas forcément. Et toujours étant que bah, maintenant, sa carrière, elle est un petit peu finie, quoi. Enfin, je veux dire, quand on est connu comme ça ou quoi, il y a même, c'est aussi dans tout ce qui est balance ton porc, ce genre de choses, ça ruine un peu les gens aussi dans leur réputation et tout. Après, c'est un mal ou un bien, ça c'est la question aussi, jusqu'où on peut aller. C'est ça aussi.
Bon, pour le coup, il a écopé d'une peine de prison pour le meurtre de sa femme. Ça s'est passé en Lituanie. Et maintenant, il a renoué avec sa carrière musicale. Hein. Je vais pas faire sa publicité, mais d'ailleurs j'ai pas écouté ce qu'il a fait.
Non, moi non plus.
Mais il a de nouveau un groupe, donc c'était le chanteur de Noir Désir, et il a un autre groupe maintenant qui, je pense, fonctionne plutôt bien, même si effectivement il y a beaucoup de gens qui ne l'écouteront, qui vont juger la musique avec dans l'esprit que cette personne a été un assassin.
Puis après, je pense aussi que, enfin, moi personnellement, j'en parlais tout à l'heure, je connais une personne. Qui a tué son mari pour violence, enfin parce qu'elle était, il était violent envers elle, et elle l'a tué. Et finalement, enfin ce genre de choses, enfin ça rend pas, enfin je pense qu'aussi faut pas avoir la monstruosité toujours, voilà, oh là là, il a tué quelqu'un, bien, enfin violer c'est encore autre chose je dirais, mais t'as tué quelqu'un ou quoi, je pense qu'il y a des raisons derrière et que bon, je sais pas non plus de faire la publicité pour les gens qui ont tué d'autres personnes et dire ah bah, il faut les accueillir, il faut leur faire un câlin quand ils arrivent. Mais en même temps, ils sont peut-être mieux en prison que dehors. C'est ça aussi la question. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que c'est si compliqué, comme tu disais tout à l'heure, Luc, qu'il y a un taux, ou bien c'était Mathieu qui disait ça, qu'il y a un taux au niveau de la réinsertion, qu'il y a des récidives. Je pense aussi que d'un côté, ils sont peut-être mieux en prison. Après.
Après, je pensais à quelque chose, mais très rapidement, on va faire une pause musicale. C'est que là, on parle beaucoup des, comment dire, des crimes, des délits, ouais, qui sont médiatiques en fait. Mais je pense pas que ce soit réellement la réalité de la délinquance et de la criminalité. Les gens qui peuplent les prisons ne sont pas des assassins. C'est des gens, comme il l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens issus des classes pauvres qui commettent des délits ou qui rentrent dans l'illégalisme pour subvenir souvent à des besoins économiques. En fait, la plupart de l'illégalité est économique et n'est pas criminelle et ne concerne pas les meurtres. Certes, ça arrive, bon, mais c'est pas... Ou les violeurs, mais c'est pas la majorité de la population, enfin carcérale, j'entends.
C'est vrai que ça représente, tout ce qui est médiatique, on l'a forcément en vue directe. On voit pas forcément aussi ce qui se passe vraiment dans les prisons. Il y a souvent des stéréotypes aussi sur les prisons, ils sont logés, nourris, blanchis. On en parlait tout à l'heure.
Avec les rangs en prime.
Voilà. Et enfin, voilà quoi. C'est vrai que ce genre de stéréotype, on le voit souvent sur les réseaux sociaux et aussi, enfin, pas forcément à la télé, mais quoique, c'est déjà arrivé à la télé. Mais c'est vrai que ce genre de stéréotype, enfin, on en est loin quand même, parce que, enfin, j'ai lu tout à l'heure un article, il disait 2 euros la lessive, ça fait un petit peu cher hein, pour faire une bâtée. Hein. Je pense que dans ce cas-là, on lave plus les vêtements, hein, c'est plus simple. Ou bien, comme le disait tout à l'heure Mathieu, c'est un, je crois que c'était 50 euros, non ? 50 euros par jour pour la télé. Enfin, c'est vrai que bon, voilà, si on n'a pas un support derrière, enfin quelqu'un qui est là, voilà, pour comment dire, donner des ressources, donner de l'argent, c'est un peu compliqué parce que bon, il y a des gens qui sont en pauvreté extrême en prison, ils ont que 50 euros par mois. 50 euros par mois, bon, d'accord, on donne la nourriture, machin, machin, mais à côté de ça, enfin, il y a beaucoup de choses derrière. Une personne, on considère en fait statistiquement que une personne qui est plutôt bien en prison, enfin bien, dans le sens où on n'est jamais bien en prison, mais quelqu'un qui a la logistique nécessaire, a 200 euros par mois donnés par la famille en fait, pour subvenir à ses besoins. Et je pense qu'en fait, enfin, on est loin de la réalité, hein, finalement. Enfin, ce qu'on voit, par exemple, enfin, je pense aussi qu'il y a de la corruption derrière. Hein. On sait très bien qu'il y a des prisonniers qui ont des téléphones et tout, mais je pense pas non plus que tout le monde a un iPhone ou un Samsung dernier cri dans cette cellule. Enfin, je pense aujourd'hui, le surpeuplement aussi des prisons, voilà, c'est pas un truc agréable. Je pense que les gens l'oublient forcément. Hein. Enfin, je veux dire, on condamne plus, donc forcément, il y a moins de place et on pense pas forcément à reconstruire des prisons. Puis, quel est l'intérêt de mettre tout le monde en prison, finalement ? Est-ce que c'est vraiment efficace ? On a vu que c'était pas vraiment efficace, donc quelle autre solution ?
Surtout que c'est aussi un lieu de violence, en quelque sorte. Ils sont aussi violentés entre eux, et aussi... il y a beaucoup de vols, tout ce genre de choses. Je veux dire, forcément, là, on met en quelque sorte un criminel avec un criminel. C'est... voilà, quoi. Ça veut pas, ils vont pas faire copa compa, forcément.
Mais je pense que plus qu'un lieu de violence, par exemple, quand on est au tribunal, on se rend compte vraiment de la violence symbolique qu'exerce l'État sur ses citoyens, quand même.
Tout à fait. On va peut-être faire une pause musicale. Le morceau suivant, c'est Vincent Augustus, Can't Get Me Wrong.
Please handle this side up. You got me upside down. Should only feel this much, but in your liquid I drown. I couldn't put it in a letter. I should've put it in a song. I would've put it in forever. Put it in you all night long. So you can't get me wrong. You can't get me wrong.
Donc dans cette dernière partie, on va aborder les conséquences du système carcéral. Déjà, on voit que le système carcéral en France est complètement surpeuplé, avec environ 70 000 places pour 60 000 environ de disponibles. Et donc du coup, on se dit, étant donné qu'il y a trop de... qu'il n'y a pas assez de place, il faudrait peut-être apporter des solutions, quoi. Du coup, on se dit, on pourrait construire plus de prisons, mais ce qui se passe, déjà, après, il faut réfléchir à l'éthique que ça, de construire plus de prisons, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Mais on voit que l'État, par exemple, n'investit pas assez dans la construction de prisons, que ce soit dans des prisons réelles ou dans l'élaboration de peines non privatives, comme par exemple le bracelet électronique, etc. Par contre, là, j'ai les chiffres. On a 1,5 million qui va être investi dans la construction de prisons, et 1,5 milliard, et 47 millions qui vont être investis dans les peines non privatives. Ce qui fait que, du coup, c'est pas grand-chose, parce que là, par contre, je vais faire des comparaisons. Le CICE, c'est 25 milliards. La supprimation de l'ISF, c'est 3,2 milliards. Et la fraude fiscale en France, c'est 80 milliards. Donc on voit que l'État s'en fout un peu de ses prisons, en fait.
D'accord.
Non, mais je sais pas, je voulais que tu voulais revenir.
Non, je te laisse continuer, on rediscutera de tout ça après.
Ok.
Pas du tout.
Du coup, on voit par exemple, on peut prendre des exemples. On voit qu'en Scandinavie, le taux d'incarcération a tendance à beaucoup baisser, ce qui est pas mal bénéfique à la société parce qu'on a que 20% de récidives en Scandinavie. Et eux, ce qu'ils font, c'est des prisons ouvertes, c'est-à-dire moins oppressantes pour les prisonniers. Et en France, on en a une seule, c'est en Corse. Et on voit aussi que là-bas, le taux de récidive est assez faible. Du coup, ce taux de récidive super élevé qu'on a en France, 63%, ça nous montre bien que construire des nouvelles prisons, c'est pas forcément une solution envisageable sur le long terme. Parce que punir des gens, ok, mais quand on voit qu'à la fin ils recommencent, on peut se dire qu'on pourrait peut-être trouver des solutions efficaces pour que les personnes soient réintroduites dans la société convenablement.
Et tu parlais justement en fait d'un pays, je me souviens plus, c'est Yougoslavie.
La Scandinavie,
ouais. Où il y avait un taux de récidive à 20%, il me semble, vers 20%. Ouais. Je pense aussi que, en France, c'est pas possible de créer des prisons plus allégées, où on se sent mieux, parce que déjà, les Français ont l'image des prisons comme un Club Med. Or, si en plus on allège et on le fait vraiment, là, ça va devenir compliqué et je pense qu'il y aura plutôt peut-être des révoltes. Bon, après, c'est probable, tu vois. Je pense que ça serait compliqué.
Déjà, t'entends quoi par révolte? Et puis aussi, je pense qu'il faut pas sonner aux sirènes du populisme. Enfin, je pense pas que... Enfin, il y a un moment, ce que veulent la majorité des Français, c'est peut-être pas ce qui est le mieux pour tout le monde en ce moment.
Ouais, c'est vrai, mais justement, je veux dire, le truc, c'est que on l'a vu ça se voit dans l'histoire. Par exemple, je remonte un peu loin, là, mais 1830, les Trois Glorieuses. Oui, je remonte un peu loin, là. Je veux dire, quand on n'écoute pas le peuple... Il y a tendance à se passer des choses et je pense que la majorité des gens, si tu dis comme ça aux gens, oui, on fait des prisons avec un système moins oppressant, il y a moins de taux de récidive, je suis pas sûre que les gens, dans certains cas de criminalité, genre, je sais pas, violeurs, assassins, les gens seront très très d'accord pour faire ça. Je pense que là, ça va être... c'est possible après.
Après, je pense qu'il y a peut-être un travail d'éducation populaire à faire.
Oui, il y a un travail d'éducation.
Pour comprendre un peu que si on va en prison, c'est pas forcément qu'on a un gros méchant né en étant gros méchant, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis je pense aussi qu'il y a une question de populisme aussi. Je veux dire, ça passe par les réseaux sociaux, par... la télévision, je pense aussi, les médias, ils contribuent pas non plus à nous faire passer le message qu'en gros, la prison, c'est souvent, c'est pas Club Med, quoi. Et les gens, il y a une éducation derrière, qui est un peu, il y a du populisme, et je pense que les gens, ils passent pas à travers les mailles du. Enfin, ils arrivent pas à passer à travers ça, et que c'est compliqué. Enfin, si justement on montrait vraiment ce qui se passe en prison, je pense qu'ils changeraient un peu d'avis, et dans ce cas-là, ça serait envisageable.
Mais après, c'est ultra pratique, parce que du coup, les gens, au lieu d'aller tourner leur colère vers ceux qui sont vraiment, vraiment coupables, par exemple, les gens qui font de la fraude fiscale ou qui font n'importe quoi, qui là vraiment font quand même un gros. Causent vraiment du souci à la société quand même. Parce que je suis désolé, mais 80 milliards en moins dans les caisses de l'État, c'est quand même quelque chose. Les gens, au lieu de tourner leur colère vers ces gens-là, ils vont aller tourner leur colère vers les gens qui n'avaient déjà pas grand-chose au début. Du coup, ça divise les classes et du coup, ça va garder le peuple tranquillement en train de se faire la guéguerre entre eux, alors au lieu d'aller faire des choses plus utiles.
Je rebondis sur ce que tu disais juste avant.
Alors, d'accord, les gens ne seront peut-être pas d'accord, mais la question tout à fait du populisme se pose. Est-ce qu'il faut écouter les gens, ou en tout cas, écouter ce qu'on leur avait déjà auparavant, peut-être mis dans la tête via les médias ? L'idée, il y a quand même, malgré tout, une véritable contradiction entre le fait que, oui, les gens veulent un châtiment. Et si possible, un châtiment public pour montrer qu'on punit les criminels et les méchants. Sauf que, ce que nous dit Mathieu, c'est que ces châtiments-là ne servent en rien la prévention des crimes. Puisqu'il y a des taux de récidive, ou en tout cas les châtiments tels qu'on les propose aujourd'hui dans les prisons, ne servent pas la prévention des crimes. L'idée va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que depuis le départ, mais je reviendrai là-dessus, et j'ai sous les yeux d'autres notes qui montrent que déjà au XVIIIe siècle, on s'apercevait que la prison ne résolvait pas la question de la récidive et ne résolvait pas du tout la question de la prévention des crimes. Ça veut dire que ça fait à peu près 200 ans qu'on sait très bien que les prisons ne permettent pas moins de criminalité, et on en est toujours à débattre sur le fait est-ce qu'il faut donner un téléphone portable à des gens dans des prisons où il y a 5 personnes par cellule et où il y a des rats et pas de toilettes et je sais pas quoi. Donc effectivement, il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions.
Après, je pense aussi, je suis totalement d'accord avec lui dans le fait que ça, on pourrait mettre ça en place et que voilà, c'est bien quoi. Et je suis d'accord avec toi pour dire que en 200 ans, on sait que ça marche pas. Mais je pense
On le savait déjà il y a 200 ans.
On le savait déjà il y a 200 ans, mais je pense que en fait, aujourd'hui, là maintenant, je parle vraiment d'aujourd'hui. Je pense que les gens, ils sont pas prêts à accepter ça, et je pense que vu qu'il y a le populisme derrière, il y a beaucoup de choses, et je pense que certaines personnes dans la politique s'en serviront. Je pense que de ce côté-là, voilà, tant qu'il n'y a pas réveil du peuple hein, non plus, on n'est pas en 1789, mais tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, je pense que les gens, cette technique, elle pourrait se mettre en place, mais ça serait compliqué. Je pense que les gens l'accepteront pas, ou bien il y aurait beaucoup de populisme derrière, et ça ferait peut-être la montée d'un certain parti que je ne citerai pas, mais je pense que là le populisme il prendra en flèche un peu, hein. Enfin je pense que là, mais après c'est une très bonne idée, hein. Dans ce cas je suis totalement d'accord que ça serait bien de le mettre en place, justement parce que ça marche pas la prison, donc
est-ce que ça ferait le jeu du FN pour le citer, ou des partis de droite plus traditionnels qui vont sur ce terrain-là? Oui et non, enfin, faut voir après, parce que je pense que il y a tout un travail de sensibilisation à faire pour changer un peu les idées préconçues des gens.
Après, tu sais, je pense que ce que tu dis, que le peuple ne descendra pas, je pense que en 1795, le peuple, c'était sa dernière révolte. En 1830, le peuple est remonté après plus de 30 ans d'absence de révolte. Et je pense que ce coup-là, je pense que l'histoire aussi, c'est une certaine boucle qui se répète au fur et à mesure. Et je pense que, bon voilà, je dis pas qu'aujourd'hui il y aurait une révolte, mais dans quelques années peut-être que ça pourrait se produire et on pourrait être étonné.
Oui, mais l'objet de la révolte n'était pas les criminels.
Oui,
là,
c'est vrai.
Mais tu confonds des choses, là.
Non,
l'objet
mais
de la...
je dis pas...
Ils n'ont pas manifesté parce qu'on a fait des prisons ouvertes. D'ailleurs, je cite, pour revenir à ce que tu disais, je parlais que j'avais des notes. En 1831, 38% de ceux qui sortent des maisons centrales, c'est-à-dire les prisons de l'époque, sont à nouveau condamnés. En 1831, on est à 63%, presque deux siècles plus tard. Donc voilà, c'est ça la question. Et je veux bien qu'on parle de révolte, mais les gens ne vont pas aller, comme je disais, ils vont pas aller manifester parce que les prisons sont ouvertes ou parce qu'on met des bracelets électroniques.
Mais je parle pas en fait. Enfin, j'ai fait une comparaison, c'est un anachronisme, mais je veux dire dans le sens où en gros, les gens à cette époque-là ont révolté parce que Charles X mettait trop de pression sur eux, et du coup ils ont décidé de péter un plomb. Et je pense que voilà, les gens, à cause du populisme, un jour il y aura un truc qui va péter, et forcément, je parle pas d'une révolte non plus de 1789 ou 1830. Les gens vont pas descendre dans Paris et détruire tout, mais je pense que il y aura peut-être il y aura peut-être un certain parti politique, peut-être le FN ou quoi, qui va peut-être réagir par rapport à ça, et ça pourrait peut-être les gens forcément veut dire quand on est facho et qu'en plus on décide de on est en colère, je pense qu'on peut faire pas mal de choses, quoi. Après, c'est que quand on regarde les statistiques, il y a quand même une majorité de Français qui est plutôt... qui sont pas non plus fachos, qui sont pas non plus... qui vont pas non plus péter un plomb en mode vénère, mais je pense que... je parlais pas de grande révolte, mais je pense qu'il y aura peut-être un mouvement social ou quelque chose du genre qui sera plutôt contre, en fait, cette technique.
Bon, moi, je crois pas du tout, mais je poursuis parce qu'il va bien falloir conclure cette émission et j'aurai pas le temps de faire ma chronique. Donc, je reste tout à fait dans ce thème puisque je vais parler d'un livre philosophique de Michel Foucault qui a été publié en 1975 et qui s'appelle « Surveiller et punir, naissance de la prison » dans laquelle il fait une généalogie de la naissance de la prison et où il tente de montrer le lien entre l'institution carcérale et l'idéologie ou les normes de la société. C'est-à-dire comment la manière de penser et d'agir dans la société permet l'apparition de la prison telle qu'elle existe. Voilà, c'est la notion de paradigme tel que l'entendait Michel Foucault. Il montre également le rôle de la prison non comme fonction de mise à l'écart des délinquants, mais comme moyen de contrôle de la population tout entière. La prison est un relais dans un réseau général de discipline et de surveillance. Voilà ce qui, pour le citer. Il ne dit donc rien de moins que la prison fabrique des délinquants qui servent d'épouvantail à la société. Elle sert à rendre dociles les autres personnes. Et elle est un choix politique qui fonctionne sur le régime de la peur et des normes. Rappelons que la prison n'a pas toujours existé. Alors pourquoi l'emprisonnement est-il le choix du pouvoir alors même que le système d'enfermement connaît de nombreux dysfonctionnements et qu'il est au moins partiellement inefficace ? Rappelons que telle qu'on la connaît, la prison est surgie au début du XVIIIe siècle comme institution et sans justification théorique. Mais punir, c'est supprimer le souci éthique de l'autre. C'est éveiller en chacun de nous la crainte d'être puni également. Ça, c'est ce que dit Frédéric Roux qui a analysé l'ouvrage de Foucault. Produire des individus qui ont peur de finir derrière les barreaux serait alors l'objectif inavoué à l'origine de cette institution. La prison. La pénalité a beaucoup changé depuis l'ancien régime à notre époque. On est passé, disons, de peine de torture public à des formes de coercition et de contrôle social disciplinaire. Aujourd'hui, la prison sert à discipliner la population. Réprimer les délits est moins l'objectif que de produire une frange d'individus, les délinquants, qui servent de contrepoids à la soumission du reste de la population. Punir humainement ne se fera donc sans doute jamais, car ce n'est pas l'objet de la prison. Dès le 19e siècle, on s'est aperçu que la prison ne fonctionnait pas. Récidive, apprentissage de la délinquance ou de la criminalité, production d'une forme de haine de la justice chez les personnes emprisonnées. Donc, dans Surveiller et punir, Foucault montre que la prison ne vise pas les délinquants eux-mêmes, mais toute la population et vise à corriger les comportements déviants. La prison matérialise le danger qu'est le délinquant lui-même, mais aussi le danger de tomber dans l'illégalité. C'est la notion de dangerosité qui renforce alors un sentiment d'insécurité, qui renforce lui-même l'idéologie sécuritaire, qui permettra d'obtenir des citoyens qui réclament plus de police et une police plus intrusive pour anticiper les risques criminels. Donc je crédite, je me suis beaucoup inspiré d'un article paru sur le site KIRN de Jean-François Baird et ce site-là, relayait un article paru dans la revue du MOS, c'est le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Des réactions assez rapidement, il nous reste 3 minutes. Voilà, je vous ai scotché, j'ai l'impression, vous me regardez avec des grands yeux. Personne ne veut rien dire. Bon, bah si personne ne veut rien dire, on conclut là-dessus et puis je mets de la musique, hein.
Bah, on peut revenir, oui, sur peut-être le rôle qu'a la prison, non pas... En fait, ouais, comme tu l'as dit, la prison, elle a pas pour rôle de réinsérer les gens dans la société, en fait, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Elle a plutôt pour rôle de, ouais, justement, de les maintenir à l'écart et, ouais, de faire contrepoids, comme tu as dit. C'est assez intéressant de voir, en fait, que, bah, que la prison, c'est plus un vecteur de division qu'un vecteur de bon fonctionnement de la société, en fait.
Bah, ce qu'il dit même, c'est que, effectivement, c'est pas juste pour mettre à l'écart des gens qui seraient dangereux pour la société, mais c'est que ces gens-là qui sont mis à l'écart servent à discipliner la société tout entière. C'est-à-dire que grâce à eux, tu prends conscience d'une espèce de danger, que grâce à eux, tu, tu, tu deviens docile, en fait, toi-même, parce que on te dit que la prison, c'est plein de gens hyper dangereux, alors qu'en fait, c'est surtout plein de gens qui sont à peu près comme toi, mais qui s'y retrouvent parce qu'ils étaient dans une forme de misère économique et sociale, et que du coup, enfin, la prison est beaucoup plus pleine de dealers, comme on le disait tout à l'heure, que de violeurs. Hein.
Oui, et puis surtout, je pense que la prison aussi, elle est plus pleine de gens très très pauvres que de gens très riches.
Tout à fait. Alors, quelques réactions, les filles ? Vous avez pas compris ce que j'ai dit ou pas ?
Si, j'ai compris, t'inquiète pas. Mais je pense que l'article que t'as cité, enfin, ce que t'as expliqué, c'est la réalité, quoi. Et je pense qu'en fait, j'ai pas grand chose à ajouter, en fait. Je pense que t'as tout dit, en fait.
Ouais, c'est parce que
c'était bien, alors du coup, on a aucune remarque à faire, tu vois.
Bon, c'est très bien. Si j'ai bien fait ça, merci de me féliciter. Bon, je te laisse conclure, à moins que tu vas y ajouter quelque chose.
Bon, on va conclure. Alors, on se retrouve dans la prochaine émission.
Dans deux semaines.
Et donc,
toujours sur microrebelle.fr. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent sur Radio Plus, à Douvrin, c'est le 104.3. Pour une fois, on peut d'ores et déjà donner le thème de la semaine de la prochaine émission.
On va parler de mai 68.
Mai 68, et il devrait y avoir avec nous des invités pour en parler. Voilà, le dernier titre musical, c'est Kurup Joera.